Amen, gloire à Dieu. Commencez par vous lire ce verset que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Il est dit ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 37. Jésus dit que votre oui soit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je veux dire amen parce que c'est la parole de Dieu, mais quand même ce verset montre qu'il y a dans la vie de l'homme un choix à faire. Et à chacun de nous, il nous faudra faire un choix, que l'on veut, que vous le vouliez ou pas, tôt ou tard, il faudra se positionner, choisir oui ou non. Il n'y a pas de peut-être, c'est soit tout ou rien, il n'y a pas de demi-mesure, les informaticiens le connaissent bien, soit 0 ou 1, il n'y a pas de 0,5, c'est soit blanc ou noir, il n'y a pas de gris, etc. Et je peux y aller encore bien loin. Il y a un chemin à choisir, une direction à prendre, et la question que je vous pose, et même que je me pose à moi aussi, quelle direction avez-vous pris ce soir? Êtes-vous convaincu ce soir que j'ai pris la bonne direction, que le chemin que j'ai pris est le chemin qui mène à Jésus-Christ, qui mènera à la bonne direction? Dans l'évangile, toujours dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle de deux chemins. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13, Jésus parle de deux chemins. Il n'y a pas là aussi d'alternative, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de plan B. Jésus dit ceci, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Dans ce verset que nous venons de lire, nous remarquons qu'il y a deux portes. Il y a deux chemins, il y a deux groupes de personnes, et il y a deux destinations. Le premier chemin qui nous est présenté est celui de la perdition, et quand même, perdition devrait nous faire réagir en voyant votre silence, votre calme. Ça devrait quand même réveiller notre conscience et se dire, mais si je suis en train de dormir, si j'ai pris la mauvaise direction, mais il faudrait peut-être me gifler pour que je puisse me réveiller, mais qu'est-ce que tu fais? Fais attention, au bout du chemin, il y a un gouffre. Là, il y a une certaine version qui traduit cette partie, le verset 13, de cette façon, parlant de la porte étroite qui ouvre sur la mort. Perdition, être perdu, c'est grave. N'existe que deux chemins. L'un vous mènera à la vie éternelle et l'autre à une mort, à la mort. Et pourtant, Jésus nous encourage à prendre le bon chemin. Il se présente dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Il se dit étant le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nous allons essayer de voir ensemble ces deux chemins. Mais avant d'y aller, au verset 13, Seigneur parle. Il dit ceci, c'est un ordre du Seigneur, nous avons un choix et c'est à chacun de nous à prendre ce choix, à faire ce choix. Vous savez, c'est comme un courant d'eau. Le courant d'eau, il vous amène dans une direction, soit à l'un ou l'autre. Et là aussi, il y a deux portes, c'est comme dans une rivière et qui vous emporte très doucement. Il y a un chemin par défaut et le chemin par défaut, c'est le chemin large et spacieux. Vous savez, c'est comme dans certains dessins animés où l'on voit d'un côté, il y a un paysage avec des arbres, des plantes, des oiseaux qui chantent. Et de l'autre côté, il y a des cailloux, il y a des rochers, et c'est un peu noir. C'est un peu ça aussi. Le chemin par défaut, on y va. Mais le chemin où ça fait mal, c'est le chemin étroit, où il y a des difficultés. Il n'est pas question d'admirer le paysage, d'admirer la porte. Et beaucoup de personnes admirent le paysage, admirent les choses de l'extérieur, mais n'osent pas trop y aller, y approcher. Et rejettent dès que l'on parle de péché, de repentance, se disent « mais ça c'est pour les hommes religieux, ça ne m'intéresse pas ». Les questions ici de la porte, ce n'est pas une porte quelconque, mais il est question de la porte étroite et de la porte large. Chacun entrera par l'une ou l'autre porte. Question que je me suis posée hier soir, Il y a une porte étroite. Et pourquoi, question que je me suis posée, pourquoi cette porte est-elle étroite? C'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi est-elle étroite? Et en y pensant, moi qui ai pris très souvent le bus il y a quelque temps, je m'est venu cette image que dans un bus, pour ceux qui prennent souvent les transports en commun, la porte, elle est étroite aussi. Elle est étroite et elle est faite ainsi afin qu'une seule personne puisse la franchir et que le chauffeur du bus puisse contrôler le titre de chacun. Si la porte était large, eh ben, certaines personnes pourraient se faufiler et ne pas payer son titre. La porte est étroite parce que cela nous montre qu'il y a un choix personnel à faire, une décision individuelle et personnelle à faire. Et cette porte est étroite afin qu'un l'un après l'autre puisse la franchir, afin que moi puisse la franchir seul. La question est comment faire? Comment faire? Très simplement, il suffit d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Accepter Jésus afin de franchir cette porte. Seigneur Jésus se présente dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Il dit ceci, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Amen. Et puis, une seule personne franchira la porte, mais il faudra y aller sans bagage. Porte est si étroite qu'il faudra même la franchir, je l'ai noté ainsi, nu. Et c'est renoncer à soi-même, on ne pourra pas passer la porte chargée avec bien des valises et bien des choses qui représentent mon péché à moi. S'approcher de Dieu, il faudra se le faire et nous vous encourageons à le faire. Je vous encourage, approchez-vous de Dieu. Dans l'évangile, dans le texte que nous avons lu, Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, on parle d'un chemin spacieux et un autre resserré. Chemin qui est spacieux correspond à, un chemin facile, attirant, indulgent ou même laxiste, avec certains parlent, dirait ceci, sans règle ni loi, et moi je fais ce que je veux, ce qui me plaît, qui tolère le péché. Il y a dans le Proverbe 14, verset 12, cette phrase, ce verset, est écrit ceci, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est à vous à choisir. Au nom de l'amour, au nom du bon sens, nous sommes prêts, le monde est prêt à accepter même n'importe quoi, à faire voter même des lois qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Le monde vous proposera un chemin avec des pétales de rose et pourtant à la fin, il y a le péché, très souvent. Chemin où il n'y a pas besoin de résister, c'est ce que le monde vous proposera. L'apôtre Paul parle du train de ce monde. C'est à cela que le monde vous entraînera. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Si vous vous laissez emporter, vous allez périr. Mais résistez. Résister, c'est passer par la porte resserrée, le chemin resserré parce qu'il existe, parce qu'il est difficile, exigeant. C'est le chemin où il vous faudra, si vous voulez le connaître plus, renoncer à vous-même, renoncer à soi, c'est le chemin de la croix. Il y a un chant que l'on chante quelquefois qui s'intitule « Tel que je suis, sans rien à moi ». Premier couplet, et celui-ci, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. C'est à cela qu'il faut faire. Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, n'hésitez pas à venir à lui, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, c'est ce que dit Jacques dans son livre, chapitre 4, verset 8. La suite, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et c'est cela qu'il faut faire. Il nous faut accepter l'idée que pour venir jusqu'à lui, il faut que je prenne conscience qu'il me faut me décharger de mon péché, de mon orgueil, péché caché ou pas, qu'il me faut m'en débarrasser, qu'il faut renoncer à l'un pour acquérir l'autre, renoncer au péché, au mensonge, me repentir pour entrer, passer cette porte étroite. Et homme irrésolu que je pourrais être, renoncer, il me faut m'approcher de Dieu, les mains nettoyées du péché, le cœur purifié pour entrer dans le royaume de Dieu. Il me faut me repentir, c'est changer de comportement, changer d'attitude, rejeter le péché pour accepter Jésus-Christ dans ma vie. Chemin de Jésus, c'est le chemin de la croix, et le chemin de la croix, c'est le chemin du renoncement. Seigneur dit ceci dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. La question ici de repentance, c'est vrai, et c'est un mot religieux qui font peur à certains, et pourtant c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est un mot qui est présent bien souvent dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, à la prédication de cet homme, l'apôtre Pierre, et il dira ceci au verset 37, après avoir entendu ce discours, « Ils eurent le cœur vivement touché, et il dira à Pierre et aux autres, « Hommes frères, que ferons-nous » C'est une bonne question, et Pierre leur dira, que ferons-nous? Eh bien, écoutez, soyez gentils avec les autres, avec les pauvres, donnez-leur ce que vous pouvez et vous serez sauvés. Et non, il leur dira bien au contraire, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Plus tard, il y a la guérison d'un homme boiteux, et là aussi, il sera question de la repentance, et il leur dira à ces hommes qui les persécutent, ces Israélites, et leur dira, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et c'est à cela, repentez-vous. Repentez-vous donc, mais quelqu'un dira, mais moi, ma religion, vous savez, elle dit bien des choses, elle parle de repentance, de changer, mais moi, elle ne me condamne pas. Et pour moi, c'est bien suffisant. C'est comme j'ai pensé à ce texte dans l'évangile de Jean. Seigneur Jésus rencontre des hommes juifs. C'est comme ces gens qui s'approchent de Jésus. Il y a ce groupe de gens dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. Il y a ce groupe de juifs qui s'approchent de Jésus. Et on parle d'eux de cette façon, verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Et ces hommes vont lui répondre, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libre. » Il y a juste une chose que ces hommes ont oublié, c'est qu'il y a bien longtemps, ils ont été esclaves en Égypte. Et aujourd'hui, on entend, quelqu'un pourrait se dire, mais moi aussi, je suis de la postérité d'Abraham, ou bien d'autres pourraient dit autrement, j'ai ma religion, je vais à l'église, c'est évident, j'assiste à un culte, je serai sauvé moi aussi. Une autre personne pourrait se dire, mais je donne de mon temps, je fais du bénévolat, je donne mon argent aux pauvres. Ben, là aussi, c'est une évidence que Dieu est bien placé pour savoir ce que je fais, que je suis comme que ces gens, ces hommes saints et droits, et bien sûr que Dieu me sauvera. Je serai sauvé comme ces juifs qui se disent, mais nous sommes des enfants d'Abraham. Ça ne marche pas comme ça. Je pensais à... Et Jésus continue, pardon, verset 34, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. » Et il m'est venu ce témoignage de ce couple, un homme, une femme, et un homme, une femme, gentille, avec un bon témoignage, et il y a l'épouse qui n'est pas encore convertie, et le mari, l'épouse assiste au baptême de son mari qu'elle connaît avec cette image bien gentille et généreux, un homme bon. Et le mari témoigne, comme ce qui se passe à chaque baptême, et témoigne de son passé, comment et cette femme entend des choses qu'elle n'a jamais entendues. Elle entend d'un homme, un homme qui était bon et qui pourtant dans le passé vivait une vie bien agitée, des soirées, une vie quelquefois alcoolisée, avec bien des choses bizarres, et elle lui dira, mais alors je ne savais pas tout ça, et tu avais bien fait de te convertir, toi. Il y avait cette femme qui était bien bonne extérieurement. Ce qu'elle ignorait, c'est que même si je suis bon extérieurement, mais mon cœur était sale. C'est l'expérience qu'elle fera. Même si je sais faire du bien aux autres, mais au fond de moi-même, il y a des choses que je ne saurais pas pardonner. Il y a le péché. Et le péché, Seigneur Jésus, elle comprendra que moi aussi, j'ai besoin d'être libéré de ce péché. J'ai besoin d'être libéré de l'amertume qu'il y a dans mon cœur. Et Jésus leur dira ceci, je continue verset 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Vous affranchir du péché, c'est cette expérience que cette femme va faire. On ne pourra pas le faire avec notre force, notre courage, mais nous avons besoin de Jésus pour nous libérer des chaînes du péché. Et c'est vrai, si on avait le temps, quelqu'un pourrait se dire, mais notre frère en parlait, j'y ai pensé aussi, je l'ai relu, ce psaume 103, quelqu'un dirait, oui, mais on m'a parlé de, quand je faisais le catéchisme, on m'a parlé d'un Dieu d'amour et d'un Dieu généreux, et vous me parlez d'un Dieu qui me demande d'abandonner bien des choses, abandonner le péché, mais moi j'ai lu dans un certain psaume 103, il est question d'un Dieu d'amour, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, etc. Verset 9, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, etc. C'est vrai, Dieu est amour. Venez à lui, et parce que il vous aime, il vous invite à sa maison. Et pourtant, il nous est dit au verset 6, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Dans une autre version, il est question le Seigneur intervient pour redresser les torts. Dieu est juste et fera justice. Tôt ou tard, il le fera, et c'est à chacun apprendre, choisir la bonne décision, apprendre le bon chemin. La décision vous appartient, personne ne vous obligera à traverser la bonne porte. Jésus nous encourage dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et leur dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ça ne s'invente pas. Ce n'est pas avec notre force, notre courage qu'on y arrivera, qu'on sera libéré de l'esclavage du péché, mais c'est parce que Jésus vit en moi que je vais y arriver, que je serai libéré de mes chaînes. En conclusion, ou du moins pour terminer, Seigneur, je voudrais terminer par ce que dit Jésus-Christ. Il dit ceci, il y en a peu qui les trouvent. Dans Matthieu chapitre 7, verset 14, en parlant du chemin étroit, resserré, il y en a peu qui le trouvent. J'ai repassé ces mots dans ma tête et je me disais que j'aurais voulu, c'est vrai, humainement parlant, qu'il y ait beaucoup qui passent cette porte. Parce que nous avons des amis, des proches, que je sais ce que c'est que le péché, avoir de la colère dans le cœur, je sais ce que c'est. J'aurais voulu que malgré tout, nous soyons nombreux au ciel à être sauvés. Et pourtant, le Seigneur est clair et il y en a peu qui les trouvent. Personne ne pourra se dire « j'y suis arrivé par hasard, j'y suis arrivé, j'ai trébuché et j'ai de la chance, je suis tombé, je suis arrivé à la bonne porte ». Ça ne marche pas comme ça. Il y en a peu qui les trouvent. Trouver. Trouver implique qu'il faut chercher. Très simplement, si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Il y a chercher et chercher. L'on peut chercher, si vous cherchez les yeux fermés, vous allez vous perdre. Si vous cherchez sans conviction, peut-être chercher parce que pour faire une expérience, voir si ça marche, on ne sait jamais, vous allez perdre du temps. Cherchez avec conviction. Il écrit ceci dans Jérémie chapitre 29, verset 13. L'Éternel qui parle, Dieu qui parle au travers de cet homme, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une invitation, faites-le, cherchez et vous trouverez. Solution aux questions que vous posez, cherchez et vous trouverez. Je voudrais terminer avec ce verset. Quelqu'un qui va poser au Seigneur une bonne question dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Je vais terminer par prier. On va incliner nos fronts, s'il vous plaît. Amen. C'est vrai que je me rends compte de cela, que nous sommes sous le regard du Seigneur et le salut est quelque chose d'important dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Il y a des choix à faire et quelquefois c'est difficile. Et pourtant, nous l'avons lu, il y en a peu qui les trouvent. Quel choix ai-je fait? Est-ce que je suis dans le bon chemin, dans le chemin étroit, dans le chemin qui mène à Jésus-Christ? Est-ce que j'ai compris que la porte, c'est Jésus-Christ? Si c'est le cas, si vous êtes convaincu que Jésus-Christ est dans votre vie, alors tant mieux, continuez, persévérez, tenez bon, continuez à suivre Jésus-Christ qui se présente comme la porte, qui est le chemin, la vérité, la vie. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, revenez à lui. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à venir sur le devant afin que l'on puisse prier pour vous, que l'on puisse vous présenter au Maître afin qu'il puisse vous aider, vous tenir la main afin que vous puissiez le suivre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à venir sur le devant afin que nous puissions prier pour vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, te rendre grâce. C'est vrai, Seigneur, que la conviction que j'ai, c'est qu'un jour, tout œil te verront, même ceux qui t'ont percé. Et Seigneur, je te prie afin que tu puisses, Seigneur, que cette parole qui a été semée dans le cœur de chacun puisse grandir, Seigneur. Ce ne sont que des mots humblement partagés, malgré les imperfections, mais tu es là, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et nous te parlons, nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur Jésus, percer nos cœurs, briser le caillou, la pierre qu'il y a dans notre cœur, dans le cœur de certains, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, nous aider à franchir cette porte étroite, donner le courage, la force aux uns et aux autres à aller jusqu'au bout, au bout du chemin. Et même si on ne le voit pas, et peut-être avons-nous pris un chemin large, un chemin agréable et encourageant, et pourtant au bout du chemin, il y a une chute d'eau, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, nous aider à ramer afin d'y aller dans le bon chemin, le chemin étroit, et même s'il y a des cailloux, que tu puisses nous aider à les franchir, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci de nous aider à progresser. Dans le nom de Jésus, Amen.